Philippe Gène, bonjour.
Bonjour, Didier.
Bonjour, vous êtes le PDG d'OncoDesign. On va parler avec vous eh bien, de vos résultats qui viennent juste d'être publiés. Comme pour toutes les entreprises, effectivement, on s'intéresse à la manière dont vous avez pu traverser cette crise avec l'impact, bien sûr, du confinement de mars 2020 et comment l'entreprise s'est organisée. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année particulière, cette année 2020?
Bon, c'est une année forcément qui va rester dans les annales. Alors, à plein de niveaux, je crois que la crise sanitaire a imposé un changement profond au niveau de la société, des manières, des méthodes de travail. Il a fallu continuer de travailler. Donc, ça aussi, ça a imposé d'autres méthodes qui sont pour l'instant en continuité sur 2020. Et pour nous, ça a remis aussi beaucoup de choses au centre des débats, c'est-à-dire la santé principalement. Je crois que la santé est revenue comme un sujet très fort au niveau des États et de la société. Et ça, c'était quelque chose qui était un peu sorti du champ. On est revenu sur des choses profondes, sérieuses, sur lesquelles on ne peut pas mégoter. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et puis, pour l'entreprise, ben, il a fallu une résilience sans faille. On a travaillé beaucoup sur l'organisation de l'entreprise dans un premier temps. Alors, son organisation au quotidien pour répondre aux contraintes sanitaires, mais aussi son organisation à plus long terme. On a travaillé sur un nouveau plan d'affaires qu'on venait de terminer fin 2019 et sa mise en place, une clarification des activités de l'entreprise, l'organisation en business unit au niveau des activités, on va dire, économiques. Et ça a été comment dire, un changement d'organisation. Et finalement, cette crise nous a permis d'aller assez vite aussi dans le changement d'organisation qui est fondamental pour la suite. Trois business units, des activités économiques, ces services biotech, et puis l'émergence d'une troisième business unit axée sur les nouvelles technologies portées par l'intelligence artificielle appliquées à notre métier qui est le drug discovery. Voilà.
Justement, ça veut dire qu'il y a pour vous un modèle économique particulier avec cette organisation pour OncoDesign?
Alors, OncoDesign, c'est une société qui porte un business model, on va dire entre guillemets, hybride depuis sa création, hein, où la mission de l'entreprise reste la découverte de nouvelles thérapies, et je dirais qu'elle développe ces technologies au contact de clients depuis toujours. Alors, par le service, les technologies permettent à nos clients, je dirais, d'avoir de l'innovation sur la sélection de leurs composés médicaments. Et en même temps, on a une construction de nos plateformes et ces plateformes nous permettent derrière de générer notre propre recherche et de construire notre propre pipe. 2019, qui était une année exceptionnelle, avec une croissance du chiffre d'affaires de plus de 34%, nous a permis également de développer notre portfolio de projets, de le faire mûrir. On avait des projets qui étaient relativement précoces. On a toujours un pipe précoce puisqu'on a des candidats médicaments qui arrivent progressivement vers l'IND, c'est-à-dire les portes des essais cliniques. Et donc, il nous fallait effectivement, à ce stade, envisager les 3 à 5 ans à venir différemment, donner plus de lisibilité aussi en interne et à l'externe, notamment aux analystes, qui puissent comprendre correctement l'entreprise et son projet.
Justement sur vos projets sur 2021, quels sont ceux qui vous avez fait des choix, vous avez indiqué un certain nombre de choix, de priorités. Est-ce que vous pouvez les détailler aujourd'hui?
Oui, alors pour l'activité de service, très clairement, cette activité pour nous, elle reste prioritaire. C'est la culture de l'entreprise, c'est aussi le développement de notre innovation pour notre propre compte. Et donc là, on est sur un objectif en 2023 d'une croissance assez importante puisqu'on vise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA, qui est un élément qu'on a introduit de manière très claire sur 2020. C'est une des conséquences. Il faut vendre, mais il faut aussi bien vendre. Et ça, c'est important de pouvoir le faire. Donc, un EBITDA qu'on veut atteindre entre 15 et 20%. Et ça, c'est l'objectif pour la partie service. Alors, une stratégie pour l'atteindre, je crois, assez claire. On vend et on accentue la vente de projets stratégiques pluriannuels avec des partenaires. Et puis, à côté de ça, on accroît le chiffre d'affaires aussi par des acquisitions externes. Voilà. Et donc, acquisitions externes qui se feront en Europe et aussi en Amérique du Nord. Donc, on est sur ces deux registres pour le service. Pour la partie biotech, qui est le développement pour l'instant de nos produits issus de notre portfolio, issus de Nanocyclics, ces inhibiteurs de kinase, on a deux projets phares. Un projet qui est partenarisé avec les laboratoires Servier depuis 2019. En 2020, on a perçu un milestone puisque le projet a atteint un certain nombre de résultats qui les ont déclenchés. On n'est encore pas à ce stade. Alors, c'est un contrat assez important, hein, ça représente 320 millions, je dirais, jusqu'au développement, à la commercialisation de cette molécule. Et donc, sous forme d'upfront, de milestone et de frais de recherche, on a des frais de recherche en même temps, en ce moment, puisqu'on est en train de travailler, ce qui nous permet aussi de générer un chiffre d'affaires sur biotech. Et là, ce projet, oui, on se rend assez directement en direction du candidat médicament. La décision est entre les mains des laboratoires Servier, mais nous, on a de bons espoirs sur cette année pour assez concrétiser ce projet, donc, qui donnera lieu à aussi l'atteinte d'autres milestones en direction de la clinique. Et c'est un projet, l'ARC2, juste, préciser, c'est une cible qui est impliquée dans la maladie de Parkinson. Et également, on a un projet donc que là on a qui est first in class, on va dire, qui est un projet qui s'adresse à une cible qui s'appelle RIPK2, qui est impliquée dans pas mal de maladies immuno-inflammatoires. C'est une cible nouvelle. On a déclaré un candidat médicament fin 2019 et donc on en a fait une priorité en interne pour l'amener jusqu'au stade de l'IND. Donc on a beaucoup travaillé en 2020 sur ce projet, notamment alors un projet de drug discovery, juste pour préciser, c'est un projet qui consiste à, quand on a le candidat médicament, pousser le candidat médicament vers les étapes réglementaires, mais également continuer de travailler sur des followers potentiels ou des backups, puisque c'est tout ce programme-là. On sait très bien que c'est la stratégie dans ces domaines du médicament, c'est le de-risking. Et donc, on a constamment un flux de molécules. Et donc, on continue d'avancer dans cette direction-là de manière relativement satisfaisante pour arriver petit à petit vers l'IND, comme on l'avait prévu. Entre sur le milieu de l'année 2000, enfin cette année-là. Voilà.
Alors, vous dites également, hein, sur les investissements que vous maintenez ce programme. Vous avez rappelé les dernières années ce que vous avez fait, mais vous direz dans le contexte, vous gardez quand même, hein, un volume d'investissement conséquent.
Alors, oui, c'est une des caractéristiques, on va dire, d'OncoDesign, puisque OncoDesign, si on examine les résultats de plus près, vous pouvez noter un résultat net de 2 millions d'euros avec un REX de 1,5, qui est quand même doublé par rapport à l'année précédente, sur un chiffre d'affaires qui était exceptionnel en 2019 et qu'on a maintenu en 2020. Et donc, c'est aussi une performance dans le contexte. Oui, on investit 40% de notre chiffre d'affaires sur nos projets de développement et on va maintenir cet investissement puisque, comme vous le savez, plus le développement avance en direction de la clinique, plus les étapes sont coûteuses parce qu'elles sont réglementaires. La tox, c'est un programme imposé et donc à ce niveau-là, on doit continuer et en parallèle, on doit continuer aussi les étapes de développement, bah, de ses followers, les backups. Donc ça crée effectivement des investissements importants. Donc on continue dans cette voie.
Alors, du côté des perspectives sur 2021, vous parliez effectivement aussi bien de croissance externe que des projets, hein, que vous avez mentionnés. Comment se présente, eh bien, cette année pour vous?
Alors, 2021 se présente très bien. On vous a donné sur les résultats, on va dire, au niveau service, sur le premier trimestre. On a terminé l'année 2020 avec un carnet de commandes service en augmentation à 26 millions, c'est-à-dire en augmentation de 34% par rapport à l'année précédente. Ce qui est, pour l'activité de service, c'est une très bonne nouvelle puisque ça vient alimenter un stock et ça permet de ne pas perdre de temps et de démarrer assez vite l'année. Donc, on l'a démarré assez vite et là, on est à plus de 1% de croissance par rapport à l'année 2020 sur ce premier trimestre. Et on continue également d'avoir, au niveau du carnet de commandes, un développement tout à fait intéressant. Donc, pour nous, le service, on a prévu une croissance organique significative. On est à la fenêtre de manière très active pour regarder des acquisitions. Donc voilà, pour cette partie-là, pour nous, l'année se présente très très bien. Et puis pour l'autre partie, ben, on vient d'en parler pour les projets, on est en développement. Donc on a des échéances, en particulier sur le deuxième semestre. C'est toujours très, un exercice délicat que de dire, que de donner une date dans ce domaine. On doit avancer et on doit effectivement arriver sur le deuxième semestre à sur nos deux projets phares principalement. Voilà.
Voilà, ça sera une année riche. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Gène, aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, Didier, et puis très très bonne journée à vous.